Zacharie 14:7 déclare « Au temps du soir, il y aura de la lumière ». Les éditions de la Lumière du Soir présentent William Marion Branham, un prophète et serviteur de Jésus-Christ qui offre à votre foi les promesses immuables de la Bible. Cet humble homme venu des forêts a été utilisé par le Dieu Tout-Puissant pour la bénédiction de millions d'âmes à travers le monde entier. Sans aucun doute, vous serez aussi bénis lorsque vous entendrez sur cette bande la traduction française d'un sermon inspiré de William Marion Branham. Et comme le dit l'Écriture, réjouissons-nous, tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est elle-même préparée.
Présentons sur cette bande magnétique un message du prophète de Dieu, notre bien-aimé et précieux frère William Marion Branham. Ce message s'intitule « La sagesse contre la foi ». Il a été prêché le 1er avril 1962 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Voici donc le message de notre précieux frère Branham. Merci, frère Neville. Le Seigneur vous bénisse. Bonjour, mes amis. Je suis heureux de revenir dans la maison du Seigneur. Il y a quelques instants, on m'a demandé de venir prier pour un serviteur âgé. Il a simplement eu une sorte de syncope. Rien de mauvais ne se trouvait en lui. Il était un vieux saint du Seigneur. Justement ici, dans la rue, Satan s'est efforcé de me rendre malade, me provoquant des nausées, et je dis, nous allons justement prier pour un autre. Il s'agissait de frère Codging. Nous le connaissons très bien ici au tabernacle. Il est venu de la Caroline et il a été très, très malade. Rien que le fait de se lever le faisait tomber en syncope. Mais il ne semble pas y avoir quelque chose qui n'aille pas avec lui. Rien physiquement. C'est seulement le diable qui essaye de le tenter. Il est un grand tentateur et aussi un bon tentateur. Vous connaissez l'histoire de cette vieille sœur qui venait à l'église. Elle ne voulait rien dire de mauvais sur personne. Alors, que pensez-vous du diable? Oh, dit-elle, c'est un bon adversaire. C'est ce qu'il est.
mais nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur ce matin, dans l'attente de la venue du Seigneur Jésus. Je pense ce matin vous parler sur ce sujet à l'abri sous le sang. Mais il semblait que le Saint-Esprit apportait un changement dans mon esprit et j'ai un autre sujet d'enseignement parce que je me demandais l'autre soir pourquoi changerait-il ma pensée sur un tel sujet à l'abri sous le sang. Vous saviez que ce texte serait Israël sous le sang, marchant vers la promesse, voyez-vous, et je pourrais en parler une autre fois. Alors, je me suis souvenu d'un songe que j'ai eu ici récemment et dans lequel je devais emmagasiner de la nourriture dans le tabernacle. Juste songe, il y a quelques semaines, combien s'en souviennent-ils? Je ne pouvais pas en donner l'interprétation, mais si cela ne prend pas trop de temps et que vous vouliez l'entendre, je vous le dirai. Il est rare que je rêve quelque chose de sensé. Cela se produit lorsque je me couche tard. Alors je me réveille, je suis nerveux ou fatigué. Vous rêvez, puis vous endormez, rêvez encore et vous réveillez. Vous voyez ce que c'est pour une personne nerveuse comme moi. Et j'étais dehors avec le frère Wood, le frère Sofman, et le Seigneur venait de donner aux gens qui étaient venus avec. Oh, c'était à Tucson, dans l'Arizona. Et le Seigneur, parfaitement pour chacun des cas, me donnait l'interprétation des sons. Maintenant, voyez-vous, quand quelqu'un me parle au sujet d'un songe, le seul moyen par lequel je peux en donner l'interprétation, c'est pour moi de le voir de nouveau. Parmi vous, plusieurs savent que beaucoup me disent des choses, mais non toutes choses concernant leurs rêves. Mais quand je le vois entièrement de nouveau, je sais ce qui n'a pas été dit. Ainsi, vous devez le revoir tout à nouveau, et alors lui peut vous parler. Quelquefois, c'est blessant, c'est dur ou désagréable pour la personne. Mais vous devez être véridique, car c'est la parole du Seigneur, voyez-vous? Parce que c'est cela qu'ils attendent, et cela n'a jamais... Oh, le Seigneur a été bon envers moi en faisant que cela soit toujours juste. Ainsi, cette nuit, je m'endormis et je me mis moi-même à rêver. Je voyais un gars et je pensais qu'il s'agissait d'un partenaire de boxe. Il y a bien des années, beaucoup de vous qui êtes là depuis longtemps, le savez, je pensais justement à frère Roy Slaughter, qui se tient là, près de la porte. Il est, je pense, un des plus anciens membres de cette église. Frère Slaughter est, je pense, vraiment le plus ancien de ses membres. Et puisque je parle de lui, il y a beaucoup de bonnes choses concernant Roy Slaughter que les gens ne savent pas. Il est mon frère. Et j'aime mieux lui donner un petit bouquet ou des fleurs maintenant plutôt qu'une couronne à sa mort. C'est vrai, il y a beaucoup de bons points. Frère Roy a été un véritable frère pour moi, lui et sa famille. Il vivait près d'ici et il travaillait durement pour sa petite famille et il a élevé de gentils enfants. J'ai connu toutes ses filles et tous ses enfants, ses garçons. C'est moi qui ai présidé le service funèbre de son petit garçon. Je me souviens qu'une fois, nous avons eu recours à un charpentier pour exécuter un certain travail dans l'église. Nous n'avions pas beaucoup d'argent. C'est lui qui était censé s'occuper de l'agencement intérieur. Il vint, se vantant de vouloir travailler, mais il ne faisait rien. Il s'est assis quelque part et il prétendit qu'il avait travaillé une demi-heure et il s'était blessé le pied. Juste assez pour intenter un procès à l'église. Il nous a poursuivis en justice pour $10 de dommages. Nous n'avions rien et ce n'est qu'une fois le jugement rendu que nous avons eu connaissance de cette affaire. Ils poursuivirent, l'homme n'avait pas d'assurance, et tout nous retombait dessus. Mais nous n'avons pas eu besoin de payer, car je n'oublierai jamais le soir où, tandis que frère Roy était assis par là, il sortit de sa poche un vieux, excuse-moi frère Roy, un vieux portefeuille qui était tout usé. Il en retira les quelques chèques qu'il avait reçus pour avoir transporté des lavures et autres. Et il dit, « Eh bien, frère Bill, je mets cela. »
Sa sœur Evelyne dit, elle est probablement assise par ici ce soir quelque part. Frère Branham, ma petite maison ne vaut que $300, mais je les mets pour cela, voyez-vous. Ça, c'est quelque chose d'authentique, de véritable. Je considère cela pour quelque chose de réel. Et peu après cela, je tenais une de mes premières campagnes. C'était à Saint-Louis, dans l'une de mes premières grandes réunions. Je reçus un télégramme. Ma petite fille est sur le point de mourir. Frère Slaughter, venez tout de suite. Je pris ma valise et j'y mis mes vêtements. Et c'est tout ce qui me restait à faire. Et je ne pouvais refuser, et nous arrivâmes. J'allais à la maison, et j'entrais dans la chambre. Et les infirmières de l'hôpital catholique de New Albany avaient perdu tout espoir de sauver sa petite fille. Et comme nous entrions dans la chambre, le Seigneur Jésus l'a guérie. Elle était là, voyez-vous, et comme le pain jeté à la surface des eaux, il reviendra à vous un jour. Mais je suis loin de mon sujet. Mais revenons au commencement. Je faisais de la boxe. J'avais un partenaire ici en ville, dans cette cité. C'est un pauvre gars et un grand buveur maintenant, buveur et misérable. Et un de ses fils est dans la police. Il se nommait Smith, George Smith. On l'appelait Smith 6 secondes. Il m'entraînait à la boxe avant le début des gants dorés. Nous étions là, au gouvernement. Il était l'homme le plus brutal que j'ai jamais vu. Et quand il me frappait, j'allais gicler plus loin. Je revenais et je disais, « Tu n'as pas besoin d'être aussi brutal que cela. Voyez-vous, ça me coupe le souffle quand tu me frappes. » Il répondait, « Laisse-moi te dire que ton meilleur entraînement est sans valeur, Billy. De même que toute ton expérience athlétique, quelle que soit ta force par rapport à ta grandeur, vis-à-vis d'un tel coup, car celui-ci arrête le sang quand il est asséné comme cela. » Frère Branham démontre le coup, note de l'éditeur. Et il disait, « Il se peut que tu me haïsses maintenant, mais quand tu seras toi-même sur le ring, tu l'apprécieras. Ton corps t'habituera à réagir rapidement, et si tu reçois un coup, tu vas aller au tapis et on commencera à compter. Mais si ton corps est bien entraîné et qu'il peut encaisser les coups, alors quand tu recevras un coup dur, ton corps réagira rapidement et tu te relèveras aussitôt. Et si tu es balancé hors du ring, tu ressauteras dedans. » Il venait de m'avoir fait gicler hors du ring. Alors il dit, « Tu dois simplement faire cela, vois-tu ? » Et il aurait aimé me tuer. Il pesait de 13 à 18 kilos de plus que moi, et il pouvait, car c'était un batailleur, et je n'étais qu'un débutant. Ainsi, c'était comme s'il me tuait presque. Il disait, « Mais tu apprécieras cela quand tu iras sur le ring. » Je découvris que c'était la vérité. J'ai entendu des sergents qui, dans l'armée, rudoyaient les gars. Ils détestaient le sergent, mais quand ils allèrent au combat, ils l'aimèrent à cause de cette formation. C'est la manière que j'ai essayé pour former les chrétiens. Ne coupez pas vos cheveux, ne vous maquillez pas, ne faites pas cela. C'est dur, mais vous m'apprécierez quand il viendra à la fin de la route. Formation, voyez-vous, il faut faire cette formation juste. Vous devez rester droit avec la parole. Cela peut sembler rude, mettre les dénominations en pièces, mais vous l'apprécierez quand vous arriverez à la fin de la route. Vous vous maintenez par la parole. Donc, mon épouse avait son bras sur le mien et nous avancions. Et George Smith, maintenant ce qu'il est, oh, j'estime qu'il est un homme grisonnant de 70 à 80 ans, soit de 10 ans plus âgé que moi. Il était de nouveau dans le ring et il continuait à se battre. Et de jeunes hommes vinrent, de grands gars aux larges épaules, et il ne pouvait absolument pas lutter avec lui. Il les renversa en une minute. Et un jeune partenaire disait, « Je veux abattre ce vieil homme, je sais que je peux. » Et ce grand et athlétique partenaire sauta dans le ring. Il ne peut pas y rester plus de 30 secondes. Il sortit et il déclara, « Je ne sais pas d'où cela vient, mais sûrement c'est un homme. » Et alors, je regardais ma femme dans le rêve et je lui dis, « Mon épouse, tu sais, il m'a donné mon premier dressage. Vous savez que les rêves sont drôles. Et alors je descendis vers une grande mer dont les eaux clapotaient. Et le batelier, ma femme Méda, n'était plus avec moi, me tendit un petit canoë d'environ 2 pieds et demi de long, blanc et en plastique. Il disait, c'est votre bateau. Oh, dis-je, je ne peux pas traverser avec cela et dans cela. Et il disait, oui, il fait 50 miles à l'heure du haut en bas de ses voies. Je disais, il peut monter et descendre le rivage, mais il ne peut pas faire plus. Il dit, oui, allez avec eux. Et je regardais, et voici, il y avait frère Wood et frère Softman, les deux frères qui étaient avec moi dans la nuit où je rêvais ce songe. Et ils étaient assis dans un canoë vert avec un attirail de camping, tente, etc. Ils disaient, allez avec eux. Je disais, ils ne sont même pas des bateliers. Je le sais, je suis navigateur et je sais comment conduire un canoë. Mais eux, ils ne le pourront jamais. Ils ne peuvent pas le faire. Et de toute façon, je ne voudrais pas. Bien, disait-il, ils vous aiment. Et il disait, pourquoi ne pas revenir ici et emmagasiner? Ainsi, je revins, et le petit endroit où nous avions été, un petit endroit nommé Klondike, à 40 miles de toute civilisation, avec un seul magasin pour les ranchers. Il me semblait que c'était Klondike, et cela se transforma pour être ce bâtiment. Et je me tenais debout ici, et je mettais dans une grande barrique la plus belle denrée que j'ai vue. Des radis paraissant avoir 3 pieds de long, des navets, des légumes verts et des pommes de terre, etc. Il disait, emmagasiner le plus possible. Et moi, je me tenais justement pour ce remplissage. Et je me suis réveillé. Je ne comprenais pas. Et je pensais que c'était simplement un rêve qui se dissipe. Mais les frères, frère Wood et plusieurs autres ici, étaient l'interprétation. J'avais à attendre exactement comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Des choses devaient arriver avant de pouvoir. Voici quelle était l'interprétation. C'était une anticipation d'outre-mer. Frère Minor Argan Bryce, un de mes amis intimes, allait payer tous les frais pour ma femme et pour moi concernant notre tournée en Palestine. Nous devions aller en Suisse, descendre en Afrique et avoir une campagne en juin. Et ma femme et Rebecca se réjouissaient sûrement de savoir qu'elles allaient traverser l'Allemagne, l'Angleterre, la France et la Palestine, où elles devaient m'attendre jusqu'à l'achèvement de la campagne d'Afrique, car je devais les prendre à mon retour. C'était une grande anticipation. Vous m'avez entendu dire, si le Seigneur le veut, si le Seigneur est consentant, j'aimerais tenir des campagnes outre-mer. Je ne le sais pas encore exactement. Cependant, j'étais dans l'attente à ce sujet. Or, voici ce qu'il en était. Monsieur Smith, George Smith, mon premier entraîneur dans cette lutte, qui était plus qu'un match pour chacun des jeunes gens qui étaient alors dans le pays lors de son combat, c'était ma première ligne de prière. Bien des fois, en voyant avancer les gens, il se produisait des révélations anticipées. Celui-ci, une vision, celui-là, une vision. Ce n'était pas seulement bien. Or, au début, je ne laissais jamais une personne. Et si je voyais quelque chose dans la lignée qui n'était pas absolument juste, lui, il m'arrêtait par un sifflement et me parlait à ce sujet. J'allais de l'avant et je priais pour les gens et les résultats étaient par centaines parce que nous allions de l'avant. J'ai prié pour 400 à 500 personnes en un seul soir. Parfois, ce pouvait être 25 ou 30 et même moins. Il pouvait se produire 10 à 15 visions. Et vous auriez pu me sortir à bref délai. Revenir à cela, revenir à mon premier début, après tout, ce n'est rien d'autre d'être sur le champ debout, puisqu'il est la parole. Ce n'est pas quelque dénomination, c'est la parole. Vous avez remarqué, dans la dernière partie de ce rêve, ma femme Méda n'était plus là. Et quand je vins sur le rivage, c'était pour aller outre-mer. Le soir suivant, frère Argan Bryce m'appela tout joyeux et me dit, Frère Branham, il y a une grande vacance. Frère Chakarian a eu un infarctus et les meetings d'outre-mer sont annulés. Il désirait que j'aille seulement pour un soir à la rencontre en Suisse. C'était pour cette seule rencontre et le reste était un temps de vacances pour parcourir la contrée qui est très belle. Et le petit canoë blanc en plastique dans lequel il désirait que j'aille, c'était la parole de Dieu. Or, dans tout cela, il n'y avait pas assez de prédication pour justifier la traversée de l'océan, je dis « Oh, oh !» seulement pour cela, il disait « Allez, allez avec eux comme ils le désirent. » Je disais « Ils ne sont pas navigateurs, je suis un ministre. S'ils viennent, ce sera malgré tout des vacances avec leur équipement de camping. » Je ne voulais pas cela, je m'en détournais. Et cependant, c'était l'interprétation du rêve. Frère Argan Braith m'appela à nouveau quelques soirs plus tard. Or, nous savions que les rencontres outre-mer avaient été annulées concernant le frère Chakarian. Il n'y avait qu'une seule soirée en Suisse, et mesdames avaient dit qu'elles ne désiraient pas aller. Je l'appelais, je lui dis, frère Argan Braith m'a fait savoir que nous devions partir le 20 mai. Elle dit, ce n'est pas possible, les enfants sont en période d'examen, je ne peux pas aller. Elle avait aussi à changer sa pensée, car elle était incluse là-dedans. C'était ses vacances, et cela fut. De même dans les rêves, toute chose a une signification. Revenons à ce que je dois dire pour votre entendement. Dans le chemin de la maison, et juste avant de sortir, une voix vint à moi un matin dans la chambre après une vision. Elle disait que le serpent avait été lié et de ne rien craindre. Elle disait, ne crains rien. Ne t'ai-je pas prouvé que je suis avec toi où que tu ailles? N'ai-je pas promis d'être avec toi dans cette tournée de chasse? Vous vous souvenez de ce que je disais concernant ce qui était avant de laisser tout cela? N'ai-je pas promis que je serai avec toi? Alors, la véritable et douce voix vint et dit, jamais la sensible et douce présence de Jésus-Christ ne te fera défaut où que tu ailles. Et je sus que nous partions pour quelque chose. Je ne savais pas ce que c'était, je ne pouvais pas le dire. Et revenant à la maison un autre soir, j'eus une vision avant d'arriver. Je voyais de petits compagnons minces, semblables à de jeunes garçons, coiffés de casquettes, et nous étions en chasse. J'avais chargé un mammouth épais, brun comme un ours. Alors il tournait en rond et me disait, il y a de la confusion concernant la rencontre. Et je disais, qu'importe la confusion, si je suis appelé d'aller n'importe où j'irai, de toute façon cela ne me fait rien. Et la vision s'arrêta. Je ne sais où cela sera, mais c'est enregistré. Cela doit se produire, c'est une vision. Or, le dimanche suivant, je devais être au Tennessee. Dieu voulant, samedi soir et dimanche matin, avec le frère Littlefield, au quartier général de l'Église de Dieu. Frère Littlefield a son église à Cleveland, Tennessee, et c'est la seule dont je fis la dédicace, il y a 3 ou 4 ans. Cela me donnait le temps de venir avec ma famille. Je promis de venir et de prêcher de nouveau dans son église. C'était le dimanche suivant. Et le dimanche après, le frère Argan Braith venait ici avec frère Roll, ce diplomate de Washington, qui avait fonctionné sous 3 ou 4 présidents. Il serait ici avec une nouvelle image. Et je désire que chacun s'efforce, si possible, d'être là. Le dimanche suivant, c'est Pâques. Nous envisageons une grande rencontre. Et Dieu voulant, je désire aussi être présent. Nous aurons un service en plein air avec baptême. Et tous ceux qui désirent être baptisés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ seront présents ce dimanche. Et par anticipation, comme il a été dit, nous pourrons prendre le local du club des garçons, 700 à 800 places assises, et en revenant du service de baptême, chacun pourra avoir un siège confortable pour ce matin de Pâques. Et ce mois-ci, je partirai du 20 au 25 ou 26, puis les 6, 7, 8, dans une salle. Les 11 et 12, nous aurons fait Big Bye à Columbia, Caroline du Sud. Cet homme est un presbytérien. Il écrivit l'art bon par jour. Je prenais 3 tubes, parfois 4, de dragées diverses par semaine. Je faisais une provision de tablettes calmantes pour les nerfs, et en doublant la dose, je ne parvenais pas à dormir. Elle disait, mon docteur m'a conseillé d'aller dans un établissement de psychiatrie pendant que je le pouvais encore, et peut-être y aura-t-il un espoir de sauver mon esprit. Nulle part dans la médecine, il n'y avait rien pour moi. J'étais en puissance de suicide à la pensée de quitter mon cher mari, ma petite fille. Elle disait, nous vivons au Kansas et j'aime cette contrée car nous voyons le grain mûrir et nous pensons à la moisson. Oh, je pense, vous savez, amie, qu'elle était méthodiste Elle avait reçu un tract pour le meeting du collège méthodiste de Bloomington il y a 11 mois de cela. Elle disait, « Mon mari et des amis y conduire. Le Seigneur savait que je ne pouvais pas tenir un jour de plus. Je fus la première personne. Votre fils Billy Paul m'a donné une carte et ce soir, quand votre mari appela les numéros, j'étais la première dans la ligne de prière. » Elle disait, « Aussitôt que je vins sur l'estrade, il me dit ma vie, ce que j'avais fait et tout ce qui s'y rapportait. Puis il a dit, « Ainsi parle le Seigneur, tout est enlevé. » Elle disait, « Depuis 7 minutes, je n'ai plus jamais eu de douleur. Je pesais environ 70 livres. Maintenant, je pèse 160 livres. Sœur Branham, quand vous êtes toute seule, je sais ce que vous éprouvez de voir votre mari dans le monde et ses choses, mais souvenez-vous qu'une petite femme au Kansas est libérée aujourd'hui parce que c'était dans la volonté du Seigneur. » Je dis à Billy, « Je désire que tu envoies ceci à ce collège méthodiste. » Il l'a mis avec une pile d'autres disant quelques-unes. Je dis, je sais, c'est merveilleux, mais une suffit. Avez-vous entendu cela? Impur, impur, les esprits malins sortirent. Et quand Jésus vint, il rendit libres les captifs. Et Jésus est la parole, et il libère les captifs. Alléluia. Inclinons nos têtes. Seigneur, comme mortel, nous savons que nous n'avons plus beaucoup de temps pour parler. Et quand je vois ce rassemblement de pèlerins aux cœurs affamés, qui sont venus des champs, des fermes, des lieux publics, de leur travail, qui ont franchi les montagnes, les déserts, les prés, et ils sont tous pèlerins, rassemblés debout, ils n'appartiennent pas au monde. Ils sont ici comme des témoins, des lumières placées sur la hauteur et donnant la lumière dans la communauté où ils vivent. Et quand ils viennent ensemble pour être vivifiés et réconfortés par la parole, ils se tiennent là, attentifs, et ils t'aiment, Seigneur. C'est pourquoi ils sont ici. Chacun sait qu'une personne ne ferait pas un tel voyage seulement pour voir. Et avec ce rassemblement, Seigneur, nous sommes un peuple pauvre. Nous ne sommes pas venus en habit précieux. Nous sommes ici pour t'adorer. Seigneur l'objet, le motif, le but de notre cœur. Et je te prie, Seigneur, de les récompenser richement. Qu'aujourd'hui, pas un seul ne passe ses portes sans avoir la vie éternelle. Car les épreuves de la route ne sembleront rien quand nous serons à la fin du voyage. S'ils sont malades, Seigneur, guéris-les. Et maintenant, comme nous l'avons dit en d'autres rencontres, sans une connaissance absolue de ce que je fais, si c'est ta volonté, je lancerai la semence. Qu'elle aille et qu'elle tombe sur un bon terrain, et je te prie, Seigneur, de la diriger dans ce bon terrain. Et sur ce pupitre, il y a bien des mouchoirs et des linges, il y a des malades et des besoins que cela représente. Ô Dieu du ciel, qui ressuscita Christ d'entre les morts et qui nous l'a présenté dans ce dernier jour dans la forme du Saint-Esprit, puisses-tu, toi qui es omniprésent, abaisser ton regard, omniscient, connaître toutes choses, omnipotent, pouvoir toutes choses. Ô daigne veiller sur ces objets lorsqu'ils seront posés sur les malades et les affligés, et rappeler cette prière à tes oreilles, afin que la guérison intervienne immédiatement. Seigneur, merci pour cette pauvre femme du Kansas, dont j'ai reçu le témoignage, et qui aujourd'hui est heureuse, sans souffrance, sans médecin, qui puisse trouver quelque chose de mauvais en elle, sans douleur, sans tranquillisant, sans soporifique, dormant bien et sainement, toutes choses étant en ordre. Ô Dieu fidèle, quand tu viens, toutes choses alors sont très bien. Je te remercie pour cela. Maintenant, Père béni, nous tournons vers ta parole. Bénis ta parole, qu'elle ne revienne pas à toi sans avoir rempli son but. Et accrédite-la au nom de Jésus, Père, comme nous te le demandons. Amen. Nous lisons dans les Saintes Écritures les cinq premiers versets du chapitre 10 de Jean. « en vérité, je vous dis que celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui monte par un autre endroit, est un larron et un voleur. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix. » Et il appelle ses propres brebis par leur nom, et il les mène dehors. Et quand il a mis dehors ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point l'étranger. Au contraire, elles le suivront parce qu'elles ne connaissent point la voix des étrangers. Le sujet choisi ce matin pour vous apporter l'enseignement, c'est la sagesse contre la foi. La sagesse contre la foi. Il y a deux sources auxquelles nous pouvons puiser pour notre vie. L'une est la sagesse, l'autre la foi. Et je pense à ce que la sagesse produit et à ce que la foi produit. Ces deux sources auxquelles nous revenons ce matin et qui sont le sujet de notre étude sont tirées de la Bible, qui montrent ce qu'elles sont et où elles mèneront, et aussi ce qu'elles ont fait, tout ceci avec le secours du Seigneur. Foi et sagesse. Pour commencer, nous allons aller à la Genèse, chapitre 1, où nous trouvons la foi présentée de même que la sagesse. Et aujourd'hui, ces deux sources sont encore présentées à la race humaine. Nous trouvons que Dieu est l'auteur de la foi, car la confiance du peuple appelé à croire et à se confier dans sa parole. Mais Satan est l'auteur de la sagesse, s'efforçant d'amener le peuple à accepter sa sagesse et à se détourner de la foi dans la parole de Dieu. Nous trouvons le fait étrange que la Genèse, ce chapitre de la semence, commence de cette façon. Et nous voyons que tout ce que nous avons aujourd'hui tire son origine dans la Genèse. Ce mot qui signifie « le commencement ». Et si nous voyons aujourd'hui les choses dans leur état actuel, elles ont eu un commencement. Pour toute chose, nous avons à rechercher le commencement. Et voici une petite pensée pour vous. Toute chose qui eut un commencement aura une fin. Mais il y a des choses qui n'ont ni commencement ni fin, les seules choses qui soient éternelles. Comment comprenez-vous le sens de ces mots, le Fils éternel de Dieu? Si c'était un Fils, il eut un commencement, il était le Fils éternel, mais comment pouvait-il être un Fils et être éternel? Car un Fils, c'est le produit de quelque chose. Mais s'il était un, il ne pouvait pas être un Fils éternel. Il n'y a pas une telle chose, éternel Fils de Dieu. Car si lui, s'il n'eut jamais de commencement, il ne peut être rien d'autre qu'éternel. Mais s'il était un Fils, il eut un commencement. Ainsi, il ne peut être un Fils éternel. Ce fut l'éternel Dieu manifesté en un Fils. Oh, l'éternel Dieu, puisque Dieu seul est éternel. Et le seul moyen par lequel nous puissions vivre, c'est parce que nous avons la vie éternelle. Ce corps meurt, tout ce qui le compose meurt, mais la portion qui est éternelle est Dieu. Elle ne peut pas mourir. Maintenant, la parole, la Bible est éternelle parce qu'elle est Dieu dans la forme de la parole. Et ce qui était en Dieu, dans ses pensées, avant que fût une seule chose parlée, c'était Dieu. Le voyez-vous? C'était Dieu. C'est pourquoi, étant prédestinés, nous qui disons, nous croyons, je suis également avec vous, ceux qui furent prédestinés étaient les choses qui étaient avec Dieu de toute éternité. Et alors, si vous êtes un enfant de Dieu, né de nouveau, ayant reçu le Saint-Esprit en vous, vous êtes les manifestations de la parole parlée de Dieu. Avant qu'il fût une parole, il existe une pensée avant qu'il énonce un seul mot. Et une parole, un mot, est une pensée exprimée. Et les pensées étaient en Dieu. Et alors nous fûmes vendus de toute éternité. Et nous fûmes appelés à l'existence par la parole. Oh, par quelle parole? Cette parole qui est la parole de Dieu. Or, Dieu est l'auteur de la foi. Satan est l'auteur de la sagesse. C'est pourquoi Dieu donna à ses premiers enfants sa parole, et il leur dit qu'ils devaient croire cela, et il plaça une séparation mortelle comme punition s'ils faillissaient à le croire. Et Satan va rôder et essaya d'offrir à Ève la sagesse. Vous serez sages, vous connaîtrez le bien et le mal comme Dieu. Or, dès le départ, vous voyez promptement que la sagesse vient du diable. C'est étrange, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, la sagesse vient du diable. Il est l'auteur de la sagesse. Maintenant, naturellement, toute chose que le diable a est une perversion de l'original. Le péché est une perversion, c'est la perversion de ce qui est juste. L'adultère est une perversion d'un acte légitime. Un mensonge, c'est la perversion de la vérité. Aussi, la sagesse que je désire que vous ayez pour marcher droitement, c'est une sagesse selon Dieu. Et la sagesse de Dieu est établie avec sa parole. Mais Satan, selon sa sagesse, s'efforce de tordre cette parole. C'est de cette sagesse dont je parle. Il y a une certaine forme de foi qui accompagne Satan. Évidemment, en acceptant Satan, vous devez croire Satan. Ainsi, il y a une foi pervertie pour une chose pervertie. Et tout ce qui s'efforce de tordre la parole de Dieu pour lui faire dire ce qu'elle n'est pas, vient d'un mauvais esprit offrant une sagesse à l'encontre de la sagesse de Dieu. Et par sagesse, c'est à cela que nous nous référons et non à la foi en Satan. Beaucoup de gens qui croient cela sont sincères. Ils croient exactement avec foi en ce qu'ils professent être juste. Voyez-vous, vous avez à veiller. Le seul chemin sûr est de revenir à la parole d'origine. Elle est la base de toute chose. Nous trouvons donc ces deux sources. Une, la sagesse, l'autre, la foi. Et l'une et l'autre ont retenti depuis la création dans le jardin d'Éden. Il y a des enfants des deux côtés. Or, quelle est la sagesse dont nous parlons? Quelque chose qui n'acceptera pas tout de cette parole qui est la vérité. C'est quelque chose qui vous entraînera loin de la vérité, se présentant elle-même comme une connaissance supérieure, plus sage. Et si cette sorte de sagesse vient de Satan, ses enfants vivent par cette sagesse. Et si la foi de Dieu vient par Dieu, et Dieu est la parole, les enfants de Dieu vivent de foi. La Bible dit-elle, le juste vivra par la sagesse? L'assemblée répond, non, note de l'éditeur. Par la foi, le juste vivra par la foi, non de ce qu'il peut apprendre, mais de ce qu'il peut croire. Prenons premièrement la sagesse. La sagesse a le raisonnement. La foi n'a aucun raisonnement, mais la sagesse a des raisonnements. La foi ne raisonne pas, mais la sagesse, oui. Revenons à la Bible. Revenons au troisième chapitre de la Genèse qui nous enseigne cela. C'est ce que nous voulons nous efforcer de faire. Suivons le Seigneur qui disait, donnez-leur de la nourriture. Vous avez besoin d'une nourriture pour ces jours. Donnez-leur à manger. Voyons Genèse 3, verset 1. Relisons-le encore et voyons comment la sagesse a des raisonnements. Le serpent était le plus subtil de toutes les bêtes des champs que l'Éternel Dieu avait faites. Et il dit à la femme, « Quoi ? Dieu aurait-il dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin ?» Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. » Notez maintenant la parole, « Vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Oh, la foi s'en tient à cela, alors veillez. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez certainement pas. » Pour quelle raison ? Mais Dieu est trop bon, trop miséricordieux, il vous aime tellement. Actuellement, le même Dieu diable l'affirme encore. Mais Dieu est trop bon pour faire cela, Dieu ne veut pas faire cela, Dieu ne peut pas punir. Cependant, il fera exactement ce que dit la parole, sa parole. Certainement, vous ne mourrez pas, mettez-vous à raisonner avec lui. En une minute, si vous raisonnez sur la parole de Dieu, vous aurez perdu la foi. Ne dites pas oui et non ou peut-être, soyez droit avec lui. Ève eut l'accès juste, mais elle écouta le raisonnement. C'est justement ce qu'ont bien des gens aujourd'hui. Une connaissance juste concernant la parole et qu'il est la parole de Dieu, mais ils en restent là. Il garde néanmoins le raisonnement de quelques docteurs d'université, les tenant éloignés de lui, loin du Saint-Esprit, loin des choses de Dieu. Nous avons à rejeter les raisonnements. Maintenant, le verset 4 puis le 5 qui disent pourquoi Satan parlait. Certainement, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voyez, il lui donna une raison. Ne voudriez-vous pas être égal avec Dieu? En d'autres termes, vous voulez réellement être droit avec Dieu. Alors suivez mon conseil, écoutez-moi, Dieu n'entend pas cela, il ne le fera pas. Ah, quand vous entendez cela, rejetez-le. C'est le sifflement du serpent. Cela peut paraître plausible, mais il n'a pas du tout raison. Ne croyez que ce que Dieu dit. Maintenant, et quand la femme vit que l'arbre était bon à manger, voyez ce que c'était. Son raisonnement la porta à connaître que c'était juste, que c'était vrai, et qu'il était agréable à la vue, et que l'arbre était désirable pour procurer. Est-ce la foi, la connaissance pour devenir sage? Voyez ce qui était. Satan présentait la connaissance, une connaissance contraire à la parole pour devenir sage. Elle prit du fruit, elle en mangea, elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Et leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils assemblèrent des feuilles de figuier pour se faire un petit tablier. Qui avait-il au départ? Un raisonnement. Voyez, la foi n'a pas de raisonnement. Vous ne raisonnerez pas du tout, vous croyez. Lorsque vous priez et que vous acceptez la guérison selon la parole de Dieu, ne donnez pas raison à ce que vous ressentez. Il n'y a pas de raisonnement à faire. Dieu a parlé et cela suffit. Oh, combien j'aimerais pendant quelques minutes m'étendre là-dessus et en tirer une exhortation. Je ne puis le faire est parlé ici sur environ 40 ou 50 textes de la Bible que j'ai écrits. Mais, raisonnons, quand le Seigneur donne une vision, je vous dirai simplement mon propre et petit moyen d'enfant. Le Seigneur donne une vision de quelque chose qui va arriver. Comment ne serais-je pas attentif à tout ce qui pourrait s'opposer? Et souvenez-vous que tout ce qui pourrait se présenter de contraire, Satan le fera. Il essayera de raisonner. Mais tu ne peux pas faire cela. Par exemple, ce que je venais de mentionner il y a quelques instants, c'était un genre de chemin battu. Juste avant que ma mère arrive, et le Seigneur savait qu'il ne m'était pas possible d'avoir de tels arrangements avec ses frères concernant cette partie de chasse, et il me donna une vision, me montrant tout le chemin en Colombie-Britannique. Et lorsque nous fûmes sur place, le guide disait, « Je n'ai jamais vu ici un ours gris, et j'ai vécu toute ma vie ici. » Et en août, nous allons envoyer du plomb parmi les brebis et les chevaux de la contrée. Il n'y a pas d'ours gris, il n'y en a pas, vous n'avez pas à venir ici. Voyez, il essayait d'avancer un raisonnement, mais Satan me disait, il se pourrait que justement tu aies mal interprété la vision, mais je ne le fis pas, c'était ainsi par le Seigneur. Et quand le caribou vint et que nous l'avons eu, ce qui est dans la vision comme vous le savez tous, alors le guide me disait, un très gentil frère, un jeune chrétien, avec qui je serai dans quelques semaines. Il disait, frère Branham, mon frère était épileptique et ce jour vous étiez à cheval et vous m'avez dit de faire une certaine chose et les crises d'épilepsie de mon frère cesseraient. Il dit, quand je fis exactement ce que le Saint-Esprit vous disait de dire, il n'a plus jamais eu de crise depuis ce jour. Il disait, maintenant nous sommes ici sur le sommet de cette montagne et puis les 3 miles de descente, il n'y a que des buissons de 4 pouces de haut et des rochers mousseux et des fraises et bois de 2 à 3 pouces. Elle disait, des mottes de tourbe, des arbrisseaux, du plomb dans le magasin et nos chevaux attachés à la charpente. Et maintenant, selon ce que vous m'avez dit avant que nous venions ici, quelque part entre nous et le stand, vous êtes venu pour tuer un ours gris de 9 pieds. Je dis, c'est ainsi par le Seigneur. Voyez ce qu'il y avait, Satan essayait de m'amener à douter de cela. Mais nous descendions la montagne. En cours de route, il me dit, frère Branham, nous sommes à environ 1 mile maintenant. Je disais, doutez-vous, Dud? Pas du tout. Nous continuâmes encore 1 demi-mile. Il disait, nous ne sommes plus qu'à 1 demi-mile maintenant. Je disais, c'est juste. Il disait, quand je pense dans 1 demi-mile, abattu dans son raisonnement, il disait, regardez, nous pouvons voir nettement chaque chose devant nous, il n'y a rien ici. Mais je disais, le Dieu qui m'a donné la parole peut en créer un ici. Ne raisonne pas, moi seulement, n'accorde aucun crédit au raisonnement. Ils n'ont rien à faire avec cela. Crois seulement ce qu'il dit, c'est tout. Et j'étais debout, regardant les collines couvertes de mousse jaune, sur lesquels le soleil brillait, de belles collines dont je pouvais voir les détails partout à 3 miles. Et quand je me tournais pour regarder environ 2 miles au-dessus de moi, se tenait à cette distance un ours gris de 9 pieds. Et comment il se trouvait là, je ne sais pas, mais il y était. Ne raisonnez pas, croyez, ne regardez pas aux circonstances, n'y prêtez pas attention, croyez. Or Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Satan disait lui, oh, laissez-moi vous dire quelque chose. Oh oui, nous disons la vérité de Dieu, certainement, c'est juste, nous croyons cette parole. Et Satan ajoutait, oh, je crois que c'est réel, certainement, mais écoutez, laissez-moi vous dire que ça ne signifie pas exactement cela. Il voulait dire cela, il voulait dire exactement ce qu'il disait. Satan disait, voyez-vous maintenant, je vous dirai ce qu'il en est, vous voyez. Vous n'êtes pas réellement, pas encore sage, vous n'avez pas acquis une sagesse, vous êtes comme une brebis qui doit être guidée, vous n'êtes pas encore vous-même. C'est le chemin que Dieu désire pour vous, vous n'êtes pas, vous n'avez pas acquis votre grade de docteur en théologie, vous n'avez pas encore assez d'éducation, mais j'ai acquis la sagesse et je vous le prouverai. Or, voyez-vous, vous n'êtes pas à même de savoir ce qui est droit et ce qui est faux. Vous connaissez qu'il y a telle chose, mais vous ne savez pas ce que c'est. Laissez-moi vous montrer le moyen. Voilà, c'est tout ce que Satan désirait dire à cette femme. C'est tout ce qu'il désirait faire. Laissez-moi vous montrer ce qu'il en est. Elle disait, mais nous mourrons. Il disait, sûrement Dieu ne voudra pas faire cela, mais il sait que vous aussi vous serez sages. Voyez, il mettait sa sagesse contre la parole de Dieu. C'est de cette sagesse-là dont je parle. Sagesse contre la foi, éclipsant la foi. C'est la première bataille. Mais la parole de Dieu se tenait ferme et vraie. Et quand ils eurent part à ce qui était défendu, ils moururent. Et depuis, il en fut toujours ainsi. C'est ce qui est, et cela est prouvé sans l'ombre d'un doute. Nous allons sonder cela un peu de temps. Genèse, chapitre 3, versets 1 à 17. Et particulièrement les versets 1 à 7 donnent les raisonnements de la sagesse. Combien croient ça maintenant? Dites Amen. L'assemblée dit Amen, note de l'éditeur. Les docteurs disent, bien, je vous dis, mais maintenant, laissez-moi prendre le témoignage de cette petite femme. Le docteur disait qu'il ne pouvait rien faire. Il vous faut aller. Il n'y a pas d'espoir pour vous. Allez dans un établissement de psychiatrie, elle disait. Mais avant que j'entre dans une de leurs cellules, je me tuerais. Et alors, Dieu intervint par une invitation de quelqu'un. Elle vint du Kansas à Bloomington, Illinois. Et elle entendit, la foi vient de ce qu'on entend. Son mari était venu avec elle, et ils étaient attachés l'un à l'autre. Pensez, 4 années, 4 grandes opérations, 15 à 16 tranquillisants, c'est assez pour tuer un mortel. Et toutes sortes de dragées, les unes étaient du Lextrom, les autres je ne sais pas. C'était un médicament pour les maladies mentales. Elle prenait ses dragées et encore 2 somnifères, et avec tout cela, elle n'arrivait pas à dormir. Misérable, malade, jour et nuit, année après année, et on ne pouvait rien faire. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et quand elle vint, Dieu la plaça sur l'estrade, la première. Et quand je vins vers elle, je disais, comment allez-vous, sœur? Comment allez-vous? Elle n'avait jamais rien entendu, elle ne connaissait rien. Mais je disais, vous êtes madame Untel, vous venez du Kansas. Très vite, elle se mit à réfléchir. Attendez une minute, je voulais seulement vous dire que Jésus-Christ était le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ici, ce soir, la Bible est accréditée, car Christ a promis de se manifester dans son Église, et il veut le faire justement ici. Maintenant, oui, vous avez été vers plusieurs docteurs, vous avez eu 4 opérations. Mais d'où vient cette information? Qui peut la donner? Certainement pas d'un petit cerveau humain, ami. Et dans votre chemin, il s'est produit telle et telle chose. Or, c'est exactement ce qui était par ce message. C'était la parole. Mais Satan disait, vous connaissez, vous acceptez cela, votre pasteur? Cela n'a rien du tout à faire ici. Chassez le raisonnement, voyez? Mais votre docteur disait que vous deviez aller dans un établissement de psychiatrie. Chassez loin le raisonnement. Je m'attends à ce que Dieu fera à ce sujet. Voyez? Alors Dieu, je ne savais que dire. Alors l'esprit attrapa le raisonnement et le chassa. Elle crut en lui. Elle ne raisonna plus. Année après année, dépression nerveuse, dérèglement d'esprit, opération, etc. Et toutes ces choses, pourquoi? Car c'est déraisonnable de penser que je puisse être guéri ici en une seconde. Mais elle ne pensa pas au raisonnement, elle crut simplement. Et la foi fut en action, elle fut guérie instantanément. Et si vous désirez lui écrire, mon fils Billy peut vous donner son adresse. Mais la sagesse requiert le raisonnement. Mais la foi n'a pas besoin de raisonnement. Ne rien faire, mais s'en tenir à la parole, car elle porte la promesse. Maintenant, nous voulons lire dans l'Épître aux Romains et le chapitre 4. Il sera bon de lire et nous commençons au verset 17. Écoutons Paul écrivant le commentaire sur la vie d'Abraham. Il n'est rien dit sur le voyage d'Abraham en Gérard et rien dans le contexte. Il est seulement dit « Abraham crut Dieu ». Romains, chapitre 4, verset 17. Comme il est écrit, et j'aime cela. Paul était basé sur la parole. Je t'ai fait père de plusieurs nations. Je t'ai fait. Abraham avait plus de 75 ans. Il vivait avec sa femme depuis son enfance, car elle était sa demi-sœur, pas d'enfant. Il était stérile, elle également. Mais Dieu le rencontra et il disait, « Je t'ai fait un temps au passé, avant la fondation du monde, certainement, père de plusieurs nations. Pensez à cela. »
Notre Père, devant Dieu auquel il croyait, et qui fait revivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il n'y a aucun raisonnement et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient.
Et Abraham, espérant contre tout sujet d'espérer, contre toute espérance, s'il avait voulu raisonner contre toute espérance, et Abraham, espérant contre tout sujet d'espérer, il crut qu'il deviendrait le père de plusieurs nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans arrêter aux circonstances, Dieu parlait ainsi, et cela réglait le tout. Oh, si Ève s'était établie de la même manière, mais elle s'arrêta au raisonnement, elle acquit une sagesse. Abraham ne désirait pas une sagesse, il désirait simplement la parole. Dieu disait ceci, et cela terminait tout. Vous savez que j'ai prêché là-dessus plusieurs fois. Allez et achetez du linge et des aiguilles et tout ce qu'il fallait pour le bébé. Et Sarah faisait des réserves. Et les années passaient et Dieu soit béni. De toute façon, nous l'aurons. Le docteur disait, elle ne peut pas en avoir. Vous ne pouvez pas avoir cela. Oh, ne me dites pas, de toute façon, nous l'aurons. C'est ainsi. Contre tout espoir, croire en espérant. Tous les espoirs étaient partis. Cependant, il croyait en cela. Et quand l'espérance fut bien morte pour lui, quand elle fut morte à toute recherche scientifique, à toute ressource de sagesse, l'espérance était loin, mais cependant, il croyait en cela. Qu'est-ce que c'était ? La foi en cela, la foi dans l'espérance, alors qu'il n'y avait plus d'espoir. J'aimerais m'attarder là-dessus pendant un instant. La foi dans l'espérance, alors qu'il n'y avait plus de sujet d'espérer. Cependant, il crut en espérant parce qu'il disait, « Il m'a dit, ainsi sera ta postérité. » Et maintenant, le verset 19 du 4e chapitre des Romains. « Et sans faiblir dans la sagesse, la connaissance, ses grades universitaires. » Non, non, non. « Et sans faiblir dans la foi, » il ne considéra point que son corps était usé. L'espérance était partie, son corps était mort. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant une conviction totale que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il n'y a là aucun raisonnement, c'est prendre la parole et l'élever devant lui. Or, si c'est la parole de Dieu, vous le croyez, alors pourquoi douter d'un mot de lui, d'une promesse de lui? Comment pouvez-vous dire que ceci est à côté, que ceci n'est pas bon, que ceci est juste, et prendre ce que vous désirez? Vous ne pouvez pas faire cela. Ou tout est bon, ou rien n'est bon. C'est juste. Aussi, dès que vous voyez que c'est la vérité, saisissez-le fermement, ne lâchez pas, sans vous occuper des circonstances, quoi qu'ils essayent de raisonner. Mais vous ne pouvez pas, ne faites pas du tout cela, restez droit, Dieu l'a promis. Et si je prends ma position en Christ, et s'il me donne son Saint-Esprit doit attester sa vie en moi, et quand je m'approche de la mort, Satan essaie de dire, « Maintenant, tu vois, tu n'appartiens pas à une organisation. Oh, restez juste sur la parole. Tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas faire ceci. N'y prêtez pas attention. Satan n'a aucun raisonnement à tenir. C'est la parole de Dieu. Voyez-vous, restez avec la parole. Elle renverse tous les raisonnements. Vous n'avez pas à raisonner, mais seulement à vous tenir sur la parole. » La foi est faite simplement dans la parole. C'est ce qu'ils désirent faire pour eux. Maintenant, vous avez atteint le fondement. Dieu désire que la race humaine le fasse. Espérez dans chaque parole qu'il a dite. Ève espérait en beaucoup de choses de lui, sauf un détail. Elle accepta. Bien, si je deviens pleine de sagesse, il est possible que ce soit ce chemin. On peut supposer que c'est ce chemin, alors c'est justement qu'elle perdit sa possession. C'est là où elle partit dans le péché, justement là. C'est là que toute la race humaine aboutit dans la tombe, directement là, car elle douta d'un mot. Beaucoup disent, oui, je crois que ceci est vrai, je crois que cela est juste, je crois que Dieu pouvait sauver, mais je ne crois pas qu'il puisse guérir. Certainement, je crois que le Saint-Esprit tomba le jour de la Pentecôte, mais il n'y a pas d'endroit où quoi que ce soit affirme que le Saint-Esprit tomba après la Pentecôte. Oh, frère, c'est de cette manière qu'ils s'expriment, et ils se nomment eux-mêmes les Églises de Christ, ayant une forme de piété, mais reniant la parole. Oh, c'est ce qui est. Nous devons croire et non pas raisonner. N'essayez pas d'acquérir une sagesse, croyez simplement dans la parole. La sagesse pousse à raisonner, à présenter une meilleure voie. Or, c'est exactement ce que Satan dit à Ève. Vous ne mourrez certainement pas, car Dieu est un Dieu qui est bon. Il est un Dieu bon, ami, c'est vrai, mais la seule voie me permettant de le croire, c'est qu'il est avec sa parole. Comment pourriez-vous me trouver véridique si je ne suis pas vrai? Et si je vous dis une chose et que j'en fais une autre, mes paroles sont sans valeur. C'est parce qu'il parlait par sa parole qu'il est un Dieu bon. Et nous avons à vivre par cette parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aussi, Dieu se repose sur cette parole. Et c'est ce qui fait de lui un Dieu bon. Maintenant, s'il disait, « Oh, je les dirigerai comme cela, je leur ferai faire ceci, tout est très bien, oh, je les bougerai d'ici », pourquoi serait-il oui et non? Voyez, il ne serait pas Dieu, mais seulement un simple homme. Mais pour être un Dieu bon, il doit rester sur sa parole. Cela établit chaque enfant. S'il en laisse un commettre l'adultère et un autre boire plus que de raison, et cet autre mentir un peu ou voler, et cet autre peut faire ceci, alors faites-moi un tracé pour venir. Il est un chemin, et ceux qui vont dans cette voie passent par la porte. Étroite est la porte, resserré est le chemin, et il y en a peu qui le trouvent. Et dans l'Apocalypse, il est écrit, dehors les chiens, les empoisonneurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. Mais bienheureux ceux qui gardent ses commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Dieu, il n'y en a pas d'autre. L'Église romaine dit, nous sommes l'Église. Cette dîme n'est pas toujours valable, c'est pourquoi vous ne pouvez pas. Et l'évêque Chin disait, essayez de vivre avec cela, c'était comme si on marchait dans des eaux boueuses. Voyez-vous, comment allez-vous faire avec cela? S'il a raison, alors la Bible est fausse. Et si la Bible a raison, alors il est dans l'erreur. Qu'allez-vous dire? Ce n'est ni l'évêque Chin ou le révérend Untel ou le docteur Untel. Je ne voudrais pas nommer le nom d'un homme, à moins qu'il ait déclaré cela à la radio. Alors j'estime que je peux dire son nom. Docteur Untel et Untel disaient, Untel et Untel. Maintenant, qui allez-vous croire, Dieu ou eux? Bien, dit-il réellement, cela ne doit pas signifier ce chemin. Justement, cela signifie le chemin dont il est écrit, car c'est là le premier mensonge du diable. Il disait à Ève, réellement, cela ne signifie pas vraiment cela. Certainement, Dieu est trop bon pour le faire, vous ne mourrez pas. Mais ils firent, et ils voulurent chaque fois, et s'efforcèrent de rencontrer la parole. La sagesse essaye de prendre un meilleur chemin, une voie moderne, aisée, un chemin de popularité. Vous êtes avec une connaissance, et puis Dieu vous guide dans votre entretien avec lui. Il pense qu'il doit venir et amener également sa femme dans la ligne. Il a renoncé à sa carte de sortie, il doit laisser la danse. Sa femme doit laisser repousser ses cheveux, elle doit réformer ses toilettes. Il a abandonné la fumée et la boisson, il doit sortir de cette grande société où il se trouve. Il doit s'humilier lui-même devant l'autel. Il doit prendre sa position et être appelé fanatique, illuminé, Belzébul, etc. Oh, mais je serai religieux, mais je descendrai ici en bas, me joindre à cette église. Vous êtes trop étroit par là. Voyez, il y a une raison. Or, en quelques minutes, nous sommes arrivés à un point culminant. Comment connaîtrez-vous ce qui est juste de ce qui est faux? Maintenant, la parole essaye de faire dire quelque chose, de faire connaître. La sagesse essaye de raisonner. Et ils essayent de trouver un meilleur chemin. Il n'y a pas d'autre voie, mais seulement le chemin de Dieu. Et la sagesse essaye d'avancer et dit, « Oh, actuellement, vous savez, nous ne pouvons pas faire cela à notre époque. Nous devons le faire de toute façon, amis. Voyez, essayez de trouver une voie plus aisée. Essayez de faire dire à la Bible des choses qu'il ne dit pas. » Vous dites, « Oh, frère Branham, maintenant vous êtes. Attendez un instant, amis. Nous reviendrons de nouveau à la semence. Qu'est-ce que le diable essaye de faire avec la sagesse ?» Il essaye de faire dire à la parole de Dieu quelque chose qu'elle n'a pas dit. C'est vrai. Il essayait de faire dire à la parole de Dieu quelque chose qu'elle n'avait pas dit. De même, c'est le moyen qu'il prend aujourd'hui. Et quand ils essayent de faire dire à la parole de Dieu quelque chose qu'elle n'a pas dit, ils disent, « Eh bien, je vous dis, frère Branham, vous n'avez pas donné l'interprétation juste. La Bible dit que la prophétie n'a pas d'interprétation privée. Pourquoi ?» Pourquoi n'a-t-elle pas d'interprétation privée? Pourquoi? Parce que la parole du Seigneur vient au prophète. Elle est interprétée par le prophète. Cela ne peut pas être une interprétation privée. Les prophètes interprétaient toujours pour vous. C'est la voix qui est supposée être. Et Dieu a donné une chose fondamentale par laquelle tous les gens seront jugés. Et si j'étais par une église, qui serait juste? Sur environ 900 de ces organisations, laquelle d'entre elles serait juste? Le savez-vous si vous êtes dedans? Quoi? Si vous êtes un méthodiste, les baptistes sont-ils justes? Quoi? Si vous êtes un pentecôtiste, les presbytériens sont-ils justes? Êtes-vous un catholique? Alors les luthériens sont-ils justes? Et si vous êtes un luthérien, les catholiques sont-ils justes? Voyez-vous? Il doit y avoir quelque part un fondement. Ainsi, si la parole, au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voyez-vous, la parole était en Dieu, c'était Dieu, c'était ses pensées qui étaient de nouveau, toujours avec lui. Les pensées de Dieu sont aussi éternelles que Dieu lui-même. Amen. Ce n'est pas du petit lait, frère. Les pensées de Dieu étaient sa parole, et au commencement. Maintenant, ce qui était en éternité, quand premièrement partit le commencement, le temps, au commencement était la parole, les pensées de Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ses pensées sont ce qu'il était, c'est pour vous également, vos pensées sont ce que vous êtes. Vous pouvez avancer, agir comme un bon compagnon, mais dans votre cœur, vous êtes en adultère, et quel que ce soit ce qui est, c'est ce que vous êtes, vos pensées. Et les pensées de Dieu étaient sa parole, qui était avec lui et en lui, et c'était Dieu. Et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et cette parole fut faite chair. Les pensées de Dieu furent exprimées dans un corps humain, faites chair, et elles habitèrent parmi nous. Ainsi, nous sommes maintenant. Si aujourd'hui vous avez la vie éternelle, vous êtes en Dieu, par Dieu qui est en vous, vous êtes la pensée de Dieu exprimée. Alors, n'écoutez aucun raisonnement, de peur que votre couronne ne soit prise et donnée à un autre. N'acceptez aucun raisonnement du tout. Croyez seulement ce que Dieu a dit, que c'est la vérité, et restez sur cela. Les raisonnements par la sagesse essaye de faire dire à la parole quelque chose qu'elle n'a pas dit. Maintenant vous dites, est-ce vrai, frère Branham? Bien. Revenons maintenant à la Genèse pour trouver. Troisième chapitre de la Genèse, verset 4. Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez certainement pas. Voyez ce qui est présenté, ce qui est. Essayez de faire dire à la parole quelque chose qu'elle n'a pas dit. Dieu disait, vous mourrez. Et la sagesse que Satan lui présentait disait, vous ne mourrez certainement pas. Voyez, il essayait de faire dire à la parole ce qui n'était pas. C'est ce que la sagesse fait aujourd'hui. Oh frère, combien nous étions hésitants à ce sujet. Séminaires, facultés de théologie sont leurs couveuses. Ce sont les grosses racines s'efforçant de faire dire à la parole de Dieu quelque chose qu'elle ne dit pas. Je défie quiconque de me montrer dans la Bible le credo des apôtres. Je défie quiconque de me montrer dans la Bible la communion des saints. Protestants et catholiques croient tous deux cela. Je vous défie de me montrer une telle chose dans la Bible de Dieu. Ce sont les grosses racines de la sagesse essayant de raisonner. Nos âmes ne sont pas charnelles, mais puissantes pour renverser tous les raisonnements et jeter à terre les forteresses de Satan, cette belle créature qui se rit. Non pas un gros malin, oh non, c'est pour l'intérieur, mais extérieurement, le péché est deux fois plus beau. Vous savez que le péché est beau? Combien d'hommes ici et de femmes ont dépassé la cinquantaine qui lèvent leurs mains? Je ne veux pas, et je ne veux pas m'adresser aux femmes, car nous admettons tous la vérité. Je désire vous poser une question. Voyez-vous aujourd'hui que les femmes sont presque deux fois plus jolies qu'elles devraient l'être dans la moyenne à travers le monde? Si c'est ainsi, levez votre main. Certainement. Elles sont deux fois plus attrayantes qu'elles devraient l'être. Regardez l'ancienne gravure. Voyez la grand-mère avec ses longues jupes et la tresse des cheveux pendant dans le dos. Elle n'était pas aussi agréable à regarder. Aujourd'hui, voyez la femme moderne. Un petit vêtement sauté aux genoux et moulant ses formes. Elle ne peut pas bouger sans pécher, marchant, descendant la rue, avec tout le maquillage et les cosmétiques de Max Factor, qui de près sont visibles sur elle, fixant ses cheveux comme une petite fille, portant une petite jupe courte arrivant aux genoux et même parfois au-dessus, ce qui ne lui va pas du tout. Mais vous la regardez, elle est agréable. Satan sait comment agir. Il est l'auteur de cette beauté, de ce genre de beauté qui découle du péché. La terre elle-même est une matrice. Où Dieu mettait-il ses semences? Où se mettent les semences? Dans une matrice. Dieu met les semences. Que fait l'homme? Pareil au démon dans une matrice. Il fera un enfant déformé s'il le peut. C'est ce que le démon avait fait sur la terre. Hybridation, faisant des créatures incomplètes. Oh, j'aime mieux laisser cela. Je n'irai jamais au repos de ceci. Vous savez ce que je veux dire? C'est à cause de cela qu'il y a une création déformée, sur le point d'être jeté dehors. Dieu a fini avec cela. Le monde est entièrement désaxé. Chaque chose est faussée. Les eaux sont polluées. L'air est vicié, sale, puant. Il n'y a pas longtemps, un vieil Indien disait, « Homme blanc, je ne désire pas vivre plus longtemps. Je suis envahi par la guerre. Où sont mes enfants? Sont-ils faits pour mourir? Où est ma femme? Avant que vous veniez ici avec vos femmes et les bouteilles de whisky et de péché, nous vivions en paix. C'était notre part. Dieu nous l'avait donné. Mais vous vous en êtes emparés et vous payerez pour cela un jour. Ô amis, aujourd'hui regardez à ceci. Leur grand et beau désert et les montagnes sont souillées de puanteurs, de péchés, de bouteilles de whisky, de boîtes de bière. Chaque endroit abonde en café et en taverne. Et dans ce grand désert, Reno, Nevada, il n'y a rien que la prostitution. L'air et l'atmosphère sont contaminés. Où jadis les belles montagnes verdoyaient, maintenant elles sont taillées et abîmées par toutes sortes de choses. Les arbres sont abattus, les eaux qui coulaient librement sont contaminées. Le monde entier va être ôté. La terre fait pousser son enfant issu de la semence. Étant souillée par les démons, elle est en travail, elle gémit. Oui, certainement, c'est une création pervertie. Dieu la jettera au loin et il repartira en nouveauté. C'est juste. Comment cela arriva-t-il? Une personne avec une petite foi douta d'une petite phrase de la parole de Dieu et la terre entière gémit. La Bible dit que la nature elle-même gémit pour ce jour de délivrance, attendant la manifestation des fils de Dieu. Les arbres luttent en vain, les fleurs s'efforcent d'embellir le chemin pour nous. Ils gémissent, ils crient, ils sentent que quelque chose est faux, perverti. La matrice ne peut pas produire ce qui est parfait parce qu'elle est pervertie. La terre pue, elle a été bénie avec le sang innocent. Elle est, comme je pourrais dire quelque chose, ce serait trop insipide, c'est puant. Dieu a dit que cela puait tellement salement devant lui. Marchez dans une salle de restaurant. Les cabinets qui empoisonnent contaminent l'air. C'est l'exacte odeur du monde devant Dieu. Il sent mauvais. Toutes choses sont mauvaises. Dieu le mettra en pièces et il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il l'a dit. Or, la matrice n'a pas enfanté un millénium. Elle a produit des choses perverses. Pourquoi? Elle s'est efforcée d'être sage. N'attirez rien de la Floride. Je ne pense pas ceci pour vous, peuple de Floride. Mais la première fois que je suis allé en Floride et je l'ai traversé pour revenir par la Géorgie, je me suis justement venu ici et j'ai dit, comme citoyen, je donne ma part pour qu'elle revienne aux Séminoles à qui elle appartient. Ils prendront un soin meilleur de leur possession que moi de mes cheveux. À chaque chose imprimée, les palmiers portent des lumières, le gros yacht prétentieux s'efforce de produire une ambiance de millénium sans repentance. C'est pour moi un bouquet de néant. Oh, je préfère pour plus d'un million grimper au sommet de la colline en Colombie-Britannique et regarder les montagnes que Dieu a créées et qu'aucune main d'homme n'a touchées. Allez dans ces villes. Les grosses maisons ne me tentent aucunement. Je déteste ce genre de bâtisse. Mais je sais qu'un jour, cela changera. La terre rejettera son enfant d'affliction, car elle sera changée. Alléluia. La foi croit ce qui est écrit. Elle dit, la parole est sans défaut. N'avez-vous jamais entendu des pasteurs déclarer, « Oh, je vous dis que la version King James ou la version révisée a été une petite différence. » Certainement, cela ne doit pas réellement dire cela. L'avez-vous entendu? Le monde en est contaminé. Mais la foi ne croit pas cela. La foi croit Dieu qui peut me créer, qui peut garder ce livre afin que je vive par lui. Et si le Dieu qui me fit et qui me juge ne peut pas garder sa parole, alors il est vraiment un très pauvre Dieu. Mais je crois que chaque mot de lui est la vérité. Que faut-il faire pour croire ainsi? Il donne la foi. Et en elle, c'est un repos parfait. Vous ne pouvez pas admettre que la parole agisse d'une autre façon. Vous devez croire justement par ce moyen. Et si vous essayez d'employer la sagesse, ils disent, Voyez, il n'est pas raisonnable que Dieu ait dit que cela produirait une telle chose. Cependant, Dieu a agi ainsi. Or, si vous dites, bien, si Dieu agit ainsi, s'il prend une vie d'homme parce qu'il n'était pas un lévite et qu'il a mis sa main sur l'arche quand elle allait tomber, ah, sans tenir compte à ce qui fut quand il prit cette vie pour cela, Dieu avait dit que seul lévite pouvait la toucher. C'est pour cela que David eut peur. Voyez-vous, par lui-même, le lévite n'était rien, mais un lévite pouvait toucher l'arche. Et ici, l'arche avait été ramenée pour un réveil, et quelqu'un d'étranger avait essayé de diriger la parole. Cela démontre que seul un oint de Dieu peut toucher cette parole. Les credos, les dénominations n'ont rien à faire avec cela. Seulement le Saint-Esprit peut dispenser droitement cette parole. Elle est mortelle pour ceux de l'autre bord qui la manie. Car l'incrédulité de pratique ou d'enseignement de quiconque produiront le retranchement du livre de vie. Ne portez pas la main sur cela. Tenez-vous-en éloigné. Écoutez et croyez seulement ce qu'il dit. Ne prenez aucune autre parole, mais ayez ce que lui, le Seigneur, dit. Soyez droit avec la parole. Il y a un danger mortel de faire quelque chose d'autre. Or, pourquoi cela? Que fait la foi? On croit, et c'est justement là le chemin. Elle est le chemin que Dieu a maintenu au travers des âges. C'est la parole de Dieu pour moi. Dieu l'honore, et il en découle une foi parfaite dans sa fidélité. Comment pourriez-vous épouser une femme si cette jeune fille partait pour vivre dans la prostitution? Vous iriez la prendre de cette maison close, et elle dirait, bien, j'essayerai d'être une meilleure fille. Vous ne pouvez pas avoir foi dans cette femme. Vous ne pouvez pas. Comment une femme aurait-elle foi en un homme agissant de même? Vous ne pouvez pas édifier votre foi sur cela. Voyez-vous, il n'y a rien. Comment pourriez-vous vous embarquer et dire, il y a un bateau, il est plein de trous à l'intérieur, mais je colmaterai avec quelques gros sacs. Peut-être pourrais-je remonter le courant pour traverser la rivière. Oh, je ne voudrais pas prendre le risque de déclarer cela, alors qu'il n'y a qu'un seul fondement pour édifier correctement. Pourquoi prendre un théologien avec une série de trous à l'intérieur? Il est prouvé que c'est faux. Il n'y a qu'un fondement qui soit réel, et c'est la parole de Dieu. Elle peut vraiment remonter le courant à travers les plus fortes tempêtes. Elle se tient dans sa droiture. Elle sera toujours vraie. Les cieux et la terre passeront, disait Jésus, mais ma parole ne passera pas. Pourquoi? Elle est éternelle. Elle était au commencement. Et il est venu justement pour exprimer la parole de Dieu. Il est l'expression de Dieu. Et Dieu parle à lui-même au travers de son Fils. Cela commença dès la Genèse, le chapitre de la semence. Et depuis, cela a toujours été, est toujours en scène, et il y a eu le même combat. Un combat entre la sagesse et la foi est continuellement la guerre. Or, cette sagesse est du diable, elle est pour ses enfants. L'avez-vous toujours remarqué? Vous avez tous vu des brebis, vous avez tous vu des boucs. Le bêlement de ces animaux est si semblable que seul un vrai berger peut le différencier. Vous prenez un vieux bouc et vous le laissez bêler. Puis vous prenez une brebis et vous la laissez bêler. Écoutez-les, cela résonne la même chose. Mais un vrai berger peut reconnaître la voix. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Voyez-vous, il peut dire lequel est un bouc. Pourquoi? Car il est lui-même un agneau. Mes brebis connaissent ma voix. Elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger. Quelle est sa voix? C'est la parole. Elles ne voudront pas de quelqu'un disant, bien, cependant ici j'exprime aussi la voix de Dieu. Ici ceci dit cela. Or c'est Satan. Nous irons un peu de l'avant pour rafraîchir votre mémoire. Or maintenant, vous voyez que la semence parole ne peut pas grandir dans l'atmosphère de la sagesse. N'est-ce pas juste? Aussi longtemps que la connaissance se mêle à la foi, ce mélange produit la mort. Ève vint. Elle disait, le Seigneur Dieu a dit que le jour où vous en mangerez ce jour-là vous mourrez. Puis elle s'arrêta pour écouter ce qu'il allait dire. Il disait, mais écoute ma chère, tu es si gentille, Certainement, Dieu a un plan pour toi. Tu sais, c'est juste. Vois-tu, tu es une femme, tu as été faite dans ce but, c'est ce qui est. Mais tu ne sais pas maintenant, mais tu as été faite dans ce but. Oh, tu es une charmante petite chose, chérie. Regarde tes délicates petites mains. Pourquoi donc le ferait-il? Mais il a dit que si nous le faisions, nous mourrons. Mais Satan disait, mais oh, comment penser qu'un bon et tendre père, Dieu, voudrait faire une chose pareille? Que fit-elle? Elle écouta le raisonnement, elle prit sa sagesse, et elle disait, c'est un arbre agréable à la vue, et il est désirable. Elle tomba pour cela, c'est exact. Et quand elle le fit, qu'arriva-t-il? Exactement ce qui arrive pour toute femme. Dès que vous cédez à cela, cela se termine ainsi. Or, la semence qu'elle portait la conduirait finalement à être mère. Et par la volonté de Dieu, par la parole prononcée, parlée, elle serait devenue finalement une mère. Mais elle ne pouvait plus attendre. Elle alla dans cela. Aussitôt qu'elle le fit, acceptant la sagesse avec la parole, et la sagesse était à l'encontre de la parole. Si vous comprenez, dites Amen. L'assemblée dit Amen, nom de l'éditeur. Et si la sagesse est avec la parole, étant produite par la parole, apportant la preuve d'être avec la parole, alors c'est la parole. Mais si la sagesse est contre la parole et non avec la parole, s'efforçant de trouver quelque chose à ajouter ou à retrancher, c'est du diable. Et les semences du Saint-Esprit de la Bible ne peuvent pas grandir dans l'atmosphère de la sagesse. Elles tuent chaque séminaire dans les environs. Elles perdent des trous par lesquels elles les ponctionnent jusqu'à ce que les jugements déferlent. Cela se fait certainement car la parole ne peut pas germer avec la sagesse du monde. Elle devait croire la parole telle qu'elle lui avait été donnée. Elle n'avait pas à écouter autre chose à ce sujet, mais seulement ce qui lui avait été donné. C'était la voie qui lui fut proposée pour croire. Jamais elle ne serait morte si elle avait cru cela. Et l'homme ou la femme qui prendra la parole de Dieu comme le moyen qui nous fut donné aura le chemin de Dieu qui nous dit « c'est la vie ». Mais si vous mélangez cela avec la sagesse de quelque organisation, vous mourrez certainement. C'est ce qui fut la première fois, c'est la semence. Ce fut la voie pour la première fois, ce fut le chemin de chaque période, ce fut toujours cela. Dieu le permit, nous le prouverons par la Bible. Et le seul moyen pour grandir et de se séparer soi-même de tout raisonnement est de croire seulement la parole. Elle avait à prendre juste. Que Dieu nous donne. Et j'ai déclaré, et je vous ai dit que je crois que Dieu a préservé et gardé cette Bible, et c'est ici le chemin que Dieu me donna. Maintenant, je ne désire aucune autre sagesse, je désire seulement le chemin dont Dieu a parlé. J'espère que je ne vous blesse pas, mais si la Bible disait que je dois me repentir, cela signifie repentir, non pas pénitence, mais repentance. La Bible m'a dit d'être baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela ne signifie pas quelque chose d'autre. Cela ne signifie pas Père, Fils et Saint-Esprit. Vous dites, Matthieu 28, verset 19, mentionne de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est exactement ce qui fut. Or, si ce n'est pas juste, s'ils n'ont pas agi de la bonne manière, la foi qu'avait Pierre pour baptiser au nom de Jésus-Christ et tout le reste de la Bible, ils avaient alors une fausse révélation que Dieu bénissait. Et alors, en remontant au début, il aurait dû alors bénir Ève au commencement. La désignation de Père, Fils et Saint-Esprit sont trois appellations ou titres, mais il n'y a qu'un seul nom. Vous ne pouvez pas baptiser dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit jusqu'à ce que vous baptisiez dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, car c'est là le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toute la Bible en témoigne. Dans la Bible, chaque personne était toujours baptisée dans le nom de Jésus. Personne dans l'Écriture ne baptisait dans les appellations de Père, Fils et Saint-Esprit. Et tout le monde était baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et celui qui est baptisé dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit est baptisé dans aucun nom du tout. Ce sont des titres, des appellations, comme le sont ceux de ministre, révérend, docteur, tout ce que vous voudrez. Père, Fils, humain, femme sont des appellations. Cela ne fait pas de différence, dit-on. Alors, essayez de mettre votre titre ou votre appellation sur votre chèque et non votre nom. Et vous verrez ce qui se passera. Dites, je signe ce chèque dans le nom de la femme de ménage. Oh, cela n'aurait pas plus de sens que de rester incrédule face à la parole de Dieu, alors que la révélation est là, droit devant vous. Il est proposé de croire au moyen indiqué de Dieu. Il ne peut pas se contredire lui-même. Et s'il se contredit, montrez-le-moi. Il ne peut pas se contredire, absolument pas. Satan s'efforce de le contredire vis-à-vis de vous, mais il ne le peut pas face à la parole. Elle ne le supportera pas. C'est une antiquité nichée dans la mémoire et qui n'a jamais été prouvée. Suivons ces deux sources que vous pouvez appeler atmosphère et voyons ce qu'elles ont engendré. Ces deux sources dégagent une atmosphère. N'avez-vous jamais été dans une église? Je dis ceci de manière révérente et pour marquer le point, Dieu le défend. N'avez-vous jamais été dans une église où le pasteur est vraiment empesé? Voyez-vous, toute l'assemblée en est imprégnée. Pourquoi? Et c'est cette atmosphère qui le produit. Allez dans un endroit où le pasteur dit, maintenant, attendez une minute. Il y a aussi une chose qui est absurde. Je ne crois pas dans une telle chose comme la guérison divine ou le baptême dans le Saint-Esprit. Vous regarderez chacun des auditeurs de l'assemblée. Et s'il y a un aigle quelque part, il sortira de cette couvée de poussins. Il le fera certainement. C'est l'exacte vérité. Il les laissera. Il ne peut pas rester là. Il est un aigle, alléluia, un oiseau de haut vol et non pas un oiseau de basse-cour. Et maintenant, nous découvrons de telles atmosphères et vous allez partout ces choses où la foi est enseignée dans une église. Vous trouverez l'église avec cette atmosphère. C'est la raison de la venue des gens parmi les saints ou les croyants prient. Paul disait qu'il n'en avait pas trouvé dans la ville, sauf Timothée, qui, vous le savez, avait une foi si précieuse. Le reste était tous des gens de dénomination. Mais quand il alla où se trouvaient les choses que l'atmosphère de foi avait créées, vous trouvez les gens vivants par la foi. Vous êtes dans un endroit où il est dit, pour moi la Bible est vraie, Dieu guérit. Vous allez dans cette assemblée, vous trouvez, pourquoi? Je mourrais d'un cancer et je suis guéri. J'étais aveugle autrefois et je vois. Je vous montrerai mon témoignage. Venez à la maison avec moi, venez manger et je vous montrerai quelque chose. Et mes voisins savent dans quelles conditions j'étais. Des années j'ai été paralysé et on pria pour cela. Oh, la parole est dans cette église. Le groupe des croyants avait établi cette atmosphère. C'est la parole dans sa simplicité, mais aussi dans sa plénitude. Mais allez pour grandir dans un endroit où la connaissance voit cette réalité et où on entend, mais cela n'est pas ainsi. Où la connaissance issue d'un séminaire est prêchée, les enfants meurent. Mais là où la foi issue de la parole est enseignée, les enfants vivent. Amen. C'est la différence. Vie ou mort. La même chose arriva dans le jardin d'Éden. Il y avait aussi deux atmosphères. Lorsque Ève laissa la bonne pour respirer la mauvaise, elle mourut. Cela se produit en tout temps. Ils ne peuvent pas tenir. Et si votre église est allée dans ce genre d'atmosphère, ô enfants, si vous désirez vivre, il vous faut croire la parole. Or, il y avait un petit aiguillon, mais pas d'une façon dure, c'est enseigné. Et quand vous mettez le doigt sur l'endroit sensible, cela pique et cela brûle un peu. C'est comme pour marquer un veau au fer chaud. Pauvre petite bête, nous avons gambadé dehors. Je ne sais pas si oui ou non, vous avez lié un veau qui gambade, et vous courez, et vous prenez ce fer chaud et vous le marquez. Oh frère, cela semble horrible, mais quand il se lève, il avait vraiment une marque pour la course. Il courait vraiment, il ruait, il bêlait et il partait. Mais on savait de qui et à qui il appartenait. Il savait à quel berger il appartenait. Ce n'était pas une plaisanterie, c'était une marque. Et parmi vous, plusieurs sont là et ont lu ou ils ont chanté la méditation du cow-boy, l'animal égaré. Quand enfin vous l'amenez dans le cercle, s'il n'est pas poinçonné, ils mettront la soupe hors de sa portée. Et les autres vont à leur propre pâture. Mais le patron connaît son bétail. Il en est ainsi pour vous, les aiguillons ardents. Scientifiquement, Satan pourrait, par sa sagesse, prouver que la terre donnée à la race humaine pour se nourrir avait des vitamines. Il peut le prouver scientifiquement. Ils peuvent prouver n'importe quoi. Il avait la vitamine P, plaisir, popularité. Il est là-dedans, c'est sur le terrain de sa sagesse. Tous les plaisirs mondains, tout ce que montre la peinture, tous les dangers. Aller de l'avant, c'est très bien, cela ne cause aucun dommage. Popularité, vous êtes la plus grande église dans la ville, c'est très bien. Il avait la vitamine C, par laquelle il en appelait au sens commun, au bon sens, se faire une raison. Il avait la vitamine R, contenant les raisonnements. Oui, il pouvait raisonner. Mais voyez-vous, cela ne produit rien. Il avait la vitamine B, qui signifie beauté. Satan est beau, le péché s'embellit. Plus le péché abonde, plus il est beau. Et la maison d'aujourd'hui est bien supérieure à la cabane. Combien plus belle, agréable, gracieuse sont les femmes d'aujourd'hui que celles de jadis. Combien plus belle est la Floride de ce qu'elle était lorsque Dieu la créa. Combien savent que Satan est beau. Il désire la beauté, il s'efforce de créer un royaume encore plus beau. Certainement, nous savons cela. Maintenant, remarquez, il avait la vitamine R, qui est le raisonnement, la vitamine B, qui est la beauté, aussi la vitamine M, qui est le modernisme. Oh, vous désirez être moderne. Prenez justement cette petite connaissance, et vous verrez, si vous ne croyez pas cette bêtise, elle pousse droit en vous, là où vous tenez. Il y en a qui se lèveront et vous donneront un échantillon de sa connaissance. Voyez, mes amis, qu'en serait-il ici si cette grande et belle cathédrale avait un rassemblement de ces gens qui rient, qui hurlent, qui parlent en langue, du haut en bas du plancher, avec la langue écumante comme les chiens? Et que dirait le maire de la ville, le conseil des diacres, si nous permettions de telles choses et bêtises ici? Oh, certainement, c'est moderne. Vous croyez que nos gens iraient dans la rue avec en main des tambourins? Et qu'adviendrait-il si nos sœurs venaient avec des cheveux longs et qui pendent et les autres femmes circulant en ville diraient « Regardez, regardez, pourquoi le président de cette église, ce qu'elle est, vous le savez, regardez, regardez ici, elle ressemble à un vieux tableau avec ses rares crins qui restent et pendent raides dans le dos. » Vous voyez, quelque chose comme cela. Vous désirez être moderne, voyez-vous? C'est la sagesse du diable, c'est ce qu'elle produit, c'est la vitamine qui est dans l'ordure et qui apparaît dans sa production. Allez de l'avant, moderne Jézabel, moderne comme les femmes d'aujourd'hui. Pourquoi les gens les plus modernes de la ville viendraient-ils à l'église? Ils grandissent avec cette vitamine moderne, la vitamine du raisonnement. Très bien, ils se sont développés en cela, c'est ce qui est. Mais dès que vous avancez pour grandir en elle, Vous êtes morts quant à la parole. Vous avez renié la parole afin d'être cela. Et la seule voie qui vous permet d'être pécheur est de renier la parole. Qu'est-ce que le péché? C'est l'incrédulité. L'incrédulité en quoi? Dans la parole de Dieu. Vous avez premièrement renié la parole. C'est pourquoi j'ai écrit concernant plus de 10 vitamines. Mais il y a une vitamine dont il ne faut pas manquer de parler. C'est la vitamine B. C'est la plus grosse. Ses résultats, la mort. C'est le ravissant groupe des gens bien, les plus modernes, dans la plus belle église, la plus grosse organisation, la plus moderne, la plus belle, disant les choses les plus raisonnables. Si Dieu nous a fait ces créatures, pourquoi condamnerait-il ces femmes qui coupent leurs cheveux pour être belles? Pourquoi condamnerait-il un peu de maquillage? Bien, il y en avait une dans la Bible qui le fit, et il la jeta aux chiens. Ainsi, pensez à cela, voyez-vous? C'est exact. Pourquoi voudrait-il? Pourquoi Dieu voudrait-il? On ne peut pas s'attendre que nous vivions d'après cette Bible. Il le fit certainement. Il disait à Ève qu'elle devait vivre. Et Jésus disait que l'homme vit de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est Jésus qui le dit. Il déclarait que si un homme disait quelque chose de différent, qu'il soit trouvé menteur. Et sa parole à lui, la parole de Dieu, véritable. Les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Ainsi, la vitamine D repose dans cette formule, le modernisme. Cependant, la semence de la parole de la Bible ne peut pas grandir dans un pareil terrain. Cependant, une personne pourrait aller dans une de ces modernes églises, et l'Esprit de Dieu descendrait sur eux, et ils désireraient s'écrier, « Oh, gloire à Dieu! Alléluia !» Vous connaissez cela? Vous avez produit que le prédicateur avale son sermon. Pourquoi? Je vous le demande. Je pouvais seulement le voir dire « Ah, hum !» Et tous les crânes alors s'étiraient sur les coups pour regarder et dire « Qui disait cela ?» Et quelques minutes plus tard, le prédicateur dirait « Jésus-Christ, le Fils de Dieu !»« Oh, gloire à Dieu, Jésus !»« Ah, hum, diacre !» En quelques minutes, vous êtes à la porte et ils vous jetteront dehors. Voyez-vous? La parole ne peut pas germer ici. Elle ne peut pas, absolument pas, simplement pas. Alors, l'ennemi vient pour insuffler son poison dans les esprits, pour essayer de tuer ce germe de vie qui est en vous, suggérant. Maintenant, il y a un groupe de gens actuellement dans le pays qui croient que Dieu guérit. Cependant, nous savons, et le bon sens le prouve, que Dieu nous a donné des docteurs pour la guérison. Et vous demandez à un bon et sensible docteur s'il est un guérisseur, il vous dira « Non, monsieur, je peux arracher une dent, mais je ne peux pas guérir la cavité dentaire. C'est juste. Je peux remettre un bras, mais je ne peux pas le guérir. » Certainement, c'est vrai. Dieu est le seul qui puisse guérir. Comment donc quelque chose grandirait-il dans un pareil terrain? Cela ne peut pas être. Et dans ce genre d'atmosphère, c'est impossible. La foi grandit par une seule vitamine. Elle ne supporte absolument pas le mélange. La foi grandit dans la vitamine de la parole. C'est elle seule qui est nécessaire pour la croissance de la foi. Et la seule chose à faire est de croire la parole. C'est de prendre toute la parole, de croire qu'elle est la vérité. Et la vitamine foi s'appelle dans un petit mot de 4 lettres, life. La vie, c'est la vitamine L. La sagesse a la vitamine P, les plaisirs. La vitamine R, le raisonnement et les autres vitamines. La connaissance a tout cela. La sagesse les contient toutes, les raisonnements les manifestent. Mais la foi n'a qu'une seule chose, la vie. C'est ce qui restera. Ta parole est la vie. Ta parole est la vérité. Il est la parole, le chemin, la vérité et la vie. Et la foi se suspend seulement et directement à cela, c'est tout. Le Saint-Esprit de vie, l'éternelle vie. Oh, voilà où grandit la foi. Le mot Zoé, la propre vie de Dieu, c'est la seule place où travaille la foi. La foi entend la parole de Dieu et croit qu'elle est la parole de Dieu. Alors elle grandit en Dieu, Zoé, et elle produit ce que dit la parole. Comment Dieu fit-il le monde? Croyez-vous que le monde était dans les pensées de Dieu? Certainement, il l'était. Il avait à l'être. Comment Dieu le créa-t-il? Il parla simplement. Où est-il allé pour prendre le matériel? Comment pourriez-vous encore raisonner avec Dieu et dire, « Ô Dieu, où as-tu obtenu les matériaux pour faire surgir les rochers? Où as-tu? Ils viennent des gaz. D'où as-tu le gaz, Seigneur? » Voyez-vous, comment as-tu fait l'eau? Quelle est la formule? H2O. D'où as-tu obtenu l'hydrogène et l'oxygène? Voyez, c'est un non-sens. Que disait Dieu? C'était dans ses pensées. Et ses pensées étaient sa parole, non exprimée. Alors, quand ses pensées s'exprimèrent, que cela soit, cela fut. Voici où la foi repose. Et le chapitre 11 des Hébreux dit, c'est par la foi que le monde fut créé. Le monde fut fait par la foi. Dieu tira le monde de choses non visibles. Par la foi, Dieu appela le monde à l'existence, car c'était une parole préméditée, et dès qu'il la formula, elle devint vie. Maintenant, vous pouvez dire, je crois cela, frère Branham, dans votre cœur vous le croyez, et alors exprimez-le, je le crois, et ne changez jamais, restez droit en cela, et veillez que cela grandisse. Cela manifestera la parole, car elle est foi. La sagesse vous détourne, mais la foi vous conduit à cela. Et cela coupe court à tout credo fait par l'homme, à tout enseignement d'école de théologie humaine. Cela refroidit. Là, il y a le professeur diplômé en tel et tel doctorat, et tous ses compagnons qui ont été à l'école et appris la psychologie et toutes ces autres choses. Cependant, il y a une chose qu'ils ont omise. Comment se présenter personnellement avec la psychologie? Quelle sorte de vêtements endosser? Et comment doit-on dire Amen? Et oh, quel non-sens! Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Les fils de Dieu sont dirigés par l'Esprit de Dieu, non pas par la sagesse d'un séminaire, une sagesse théologique. L'Esprit de Dieu guide les fils et les filles de Dieu. Certainement. Amen. Or, laissons de côté chaque credo de toute école biblique, tout théologien. Il n'y a rien d'étonnant qu'ils ne puissent pas croire. Il n'y a rien là-dedans de fertilisant. Ils prennent la vitamine R du raisonnement et nous avons à la rejeter. La vitamine de la popularité, la vitamine plaisir, elle leur procure un peu d'amusement. Quelle sorte de gaieté? Oh, sortir, voir un tantinet, une fois n'est pas coutume, vous savez, pour être un peu lancé, cela ne ferait pas une différence. Voyez-vous, de telles petites choses sont justement toute cette mauvaise vitamine. Et comment cette sorte de vitamine vous fera-t-elle grandir dans la parole qui la condamne? Si vous aimez les choses qui sont dans le monde, l'amour de Dieu n'est point en vous, dit la Bible. Or, comment la parole de Dieu pourrait-elle s'épanouir avec de telles vitamines? Pour que le grain germe, il doit prendre une certaine vitamine dans le sol. Cela se fait dans la bonne terre. Nous voulons examiner cela. Il faut avoir la bonne sorte de terre, autrement le grain ne lèvera pas. Vous prenez certains terrains, cela ne germera pas correctement et donnera quelque chose d'autre. Un terrain sablonneux et une autre vitamine produiront la croissance d'une certaine chose. Et si cela ne réussit pas, il manquait quelque chose et la croissance était arrêtée. Or, des semences croissent vigoureusement alentour, sur toutes sortes de terrains. Les vieilles semences de dénomination poussent justement partout. Mais, frères, je vous dis que si vous désirez produire les fruits de la vie, celle-ci doit sortir de la parole. Il n'y a rien d'étonnant qu'ils ne puissent pas croire. Ils n'ont rien pour en vivre. Jésus parle au chapitre 13 de Matthieu, dès le verset 1. Nous allons les reprendre pour voir comment Jésus parle des choses dont nous nous entretenons maintenant. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. et toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, « Un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Non pas la sagesse, mais les oreilles pour entendre. Remarquez qu'il disait que quelqu'un sortit. La semence est lancée, la parole prêchée. Une partie tombe sur un sol rocailleux, une partie tombe sur le chemin, et comme l'eau, elle rejaillit. Elle tombe sur un sol rocailleux, il n'y avait qu'un peu de poussière répandue. Elle leva, mais elle n'eut pas de racines. Il n'y avait aucune place pour enfoncer les racines. Je désire faire ici une illustration, et j'espère que je ne blesserai pas vos sentiments. C'était l'Église catholique. Ils disent qu'elle est construite sur un roc. Je suis d'accord avec eux. Certainement, je suis d'accord. C'est tout à fait juste. Il n'y a absolument aucune terre dessus, aucune terre qui puisse produire la croissance. Pourquoi ? Ils ne peuvent pas produire une vitamine biblique parce qu'ils n'ont jamais cru en elle. La doctrine consiste en des dogmes, un dogme romain, et non pas la parole. Oh, tomber sur des pierres, c'était une sagesse supérieure. Oh, frère, je vous le demande, ils avaient cette voix supérieure, ils la présentaient au moyen de la psychologie, de grands et larges bâtiments et de beaux costumes, semblables aux prêtres des dieux saints ou toute autre chose. Combien entendirent le témoignage de cette petite nonne qui vient de sortir? Vous viendrez ici, et je désire que cela soit pour un mercredi soir, ici à l'église, et que chaque personne présente puisse entendre son témoignage. L'une d'elles me suivit longtemps, et je me rendis moi-même à Mexico. Je vis leur four à chaud où les bébés des nonnes que les prêtres leur avaient fait, leurs bébés qui étaient brûlés dans leur four à chaud. C'est ce qui fit germer le communisme à Mexico. Ils démolirent tout cela. C'est ce que fit là-bas le communisme. N'ayez jamais peur du communisme. Dieu se sert du communisme. Je n'y crois pas, il est du diable. Mais Dieu prend le diable et il le fait revenir, comme il le fit avec Nebuchadnezzar qui vint et chassa le peuple d'Israël. Veillez et voyez si la Bible ne le prouve pas. Un de ces jours ils viendront. Dieu les rassemble pour venger les enfants de Dieu concernant cette vieille prostituée. Ainsi la Bible dit, elle affirme qu'ils la brûleront au feu car elle aboutit à son jugement. C'est ce qui arrivera, c'est la semence tombée sur un sol rocailleux, recouvert d'un peu de poussière. Rien ne germe, c'est la mort. Voilà où aboutit la super sagesse. Puis, il y en a qui tombent sur le terrain du protestantisme. Mais après un temps, les grandes dénominations les éliminent, mettant le Saint-Esprit dehors. Le temps des miracles est passé, etc. Docteur Intel dit ainsi, ainsi. Voyez-vous, non pas une chose pareille. Seulement se perfectionner, secouer tout cela, échanger l'esprit pour la sagesse. Et le Saint-Esprit tomba dans les jours de Martin Luther. Le Saint-Esprit tomba dans les jours de John Wesley. Le Saint-Esprit tomba dans les jours de l'Église de la Pentecôte. Mais que firent les dénominations? Avec leur sagesse, elles l'ont bouté dehors. Oh, les dénominations, qu'ont-elles rejeté? La semence. Et qu'est-ce que la semence? La parole. Cela ne signifie pas ceci, ceci veut dire cela, etc. J'ai rencontré plusieurs de leurs ministres, hommes au cœur honnête, et je me suis entretenu avec eux au sujet du baptême et autre chose. J'ai demandé à chacun de venir pour en discuter. Ils disaient, « Frère Branham, si nous faisons cela, notre Église nous chassera. » Je disais, « Qu'est-ce qui a le plus de prix pour vous, la parole de Dieu ou votre Église ? Jamais vous n'irez dans de telles dénominations poussiéreuses. La parole est reniée, c'est faux. Cela montre le produit de la sagesse humaine. Or, les protestants ont aussi rejeté. Ils ont mis l'esprit dehors quand ils commencèrent à prendre la sagesse au lieu de la foi dans la parole. La sagesse dans l'organisation. La sagesse organisée au lieu de la foi dans la parole. Que tous ceux qui comprennent disent Amen. La foi en quoi? En un groupe humain de méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes et évangéliques tous ensemble. Et bientôt, ils en arriveront à former une confédération d'églises qui sera l'image de la bête. Elle aura la même puissance sur les nations, selon Apocalypse 13, verset 11. Et cela causera la persécution des saints, exactement comme cela se fit au commencement de l'Église romaine. C'est ce qui leur viendra en tête. C'est pourquoi ces mots sont partout lancés. Tenez-vous éloignés de cela. Sortez en dehors de tout cela. Or, la sagesse est secouée dehors. Leur propre sagesse rejette l'esprit loin d'eux. La Bible, dans Apocalypse, chapitre 3, vous en donne la preuve, comme nous l'avons indiqué dans les âges de l'Église. Jésus a été rejeté de son Église. Il est en dehors, essayant de frapper à la porte pour revenir. C'est exactement ce qu'il dit. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un a soif et s'il veut venir, je viendrai. » Mais personne n'ouvrit la porte. Voyez-vous, ils l'ont mis dehors. Voyez, la semence tomba sur eux, mais une partie tomba dans la vallée de persécution, et des semences vinrent dans la vallée de persécution. Or, c'est dans la vallée que vous trouvez de l'eau et la meilleure terre. Et quand vous prenez quelqu'un qui a été frappé à fond jusqu'à recevoir contre lui les coups de toute la théologie, tourné en risée, déclaré insensé, où il a été passé à la meule et débarrassé de tout, étant préparé pour le travail comme l'est le métal, vous trouverez alors qu'il y a de la rosée alentour. Cet homme a été lancé dans la vallée, rejeté de son organisation. Il est, comme ils le disent, dans le dépotoir à Caffa. C'est ainsi qu'ils appellent la vallée. Vous savez que c'est aussi là que croît le lys dans cette vallée. Et une partie tomba dans la vallée de la persécution, des dures épreuves. Des semences tombèrent là, vallée de persécution, épreuve cruelle, étant nommée de divers titres, comme le lys qui fut appelé Belzébul et jugé insensé. Mais dans cette vallée, il y a des rivières d'eau. Dans le psaume 1, il est dit, heureux l'homme, je désire le lire et montrer ce qui est dans cette vallée. Nous en prendrons le temps et voir que là où cet homme a été lancé, c'est exactement l'endroit où il est planté. Ou bien il est planté dans la poussière d'un sol rocailleux, du désert sans terre, ou bien il est planté dans la vallée.